France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Est-ce la fin de la trêve entre Israël et le Hamas? Hier, Donald Trump a promis un véritable enfer à Gaza. Si tous les otages ne sont pas libérés samedi, nous serons à Jérusalem et à Washington dès le début de ce journal. Au dernier jour du sommet de l'IA à Paris, on se demandera si les participants sont à même de parvenir à une position commune vers une intelligence artificielle plus éthique. Et puis, avec notre invité aujourd'hui, le réalisateur Henri Poulain, on parlera des oubliés et plus encore des sacrifiés de l'IA. À suivre également les 20 ans de la loi handicap en France et le manque toujours flagrant d'accompagnants dans les écoles. Enfin, on reviendra sur un appel à la grève dans les écoles parisiennes aujourd'hui contre la fermeture annoncée de près de 200 classes à la rentrée prochaine. Avec son projet de prendre le contrôle de la bande de Gaza, débarrassé de sa population, Donald Trump ne se voyait pas seulement en chef de chantier, mais en maître du monde. Et c'est encore avec une certaine forme de nonchalance outrancière dont il est coutumier que le président américain a de nouveau fait montre de sa toute-puissance hier en promettant, je cite, « un enfer si tous les otages israéliens retenus par le Hamas n'étaient pas libérés d'ici samedi midi ». Alors, non seulement cette exigence va plus loin que l'accord conclu sur la première phase de la trêve, mais surtout, elle intervient après que le mouvement islamiste eut menacé en effet de reporter la libération des trois otages prévus samedi. Et pourquoi ? En raison précisément de la multiplication en quelques jours seulement des déclarations arrogantes, sinon éhontées du président américain qui ont complètement remis en question la viabilité de l'accord de cessez-le-feu. Et d'ailleurs, en cas de non-respect de l'ultimatum qu'il a donc lui-même lancé unilatéralement hier soir, Donald Trump a d'ores et déjà donné un blanc-seing à Israël pour faire voler la trêve en éclats. Thibault Lefèvre, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Jérusalem, ce matin a débuté, Thibault, une réunion du cabinet de sécurité israélien pour décider du maintien ou non du cessez-le-feu.
Oui, avec devant le bureau du Premier ministre des familles d'otages ou d'anciens otages mobilisés tôt ce matin pour faire pression sur le gouvernement. Et certains comme Yosef Avi Yair Engel, dont le petit-fils a été relâché lors de la première trêve en novembre 2023, clairement favorable à la dernière proposition du président américain.
Trump est la seule personne dans le monde qui demande à ce qu'on libère tous les otages immédiatement. 76 Israéliens sont encore là-bas. Ils sont en très mauvaise santé. On l'a vu lors de la dernière vague de libération samedi dernier. Et j'espère que samedi, tout sera terminé.
Alors quand, comment et à quel moment, Donald Trump n'a donné aucune précision sur les modalités de mise en œuvre de ces menaces. La balle est dans le camp de Benjamin Netanyahou, avec cependant depuis hier une évolution majeure. Le Premier ministre israélien a désormais clairement le soutien du président américain s'il veut reprendre les hostilités. Depuis ce matin, l'extrême droite, qui peut faire tomber à tout moment la coalition, jubile.
Et quelle est la situation, Thibault, du côté du Hamas cette fois-ci ?
Le Hamas a assuré dans un communiqué hier soir que sa suspension des libérations d'otages jusqu'à nouvel ordre laissait la place à la négociation. Israël a donc 4 jours pour compenser les violations passées de l'accord en laissant notamment plus d'aide et de matériel entrer à Gaza. Les annonces des derniers jours et la crainte du retour de la guerre ont provoqué une flambée des prix des denrées de base. La population est à bout et l'armée israélienne a de son côté renforcé son emprise sur l'enclave. Elle est en état d'alerte maximale. Les permissions des soldats ont été suspendues et les drones ont repris leur vol de surveillance.
Merci Thibault Lefèvre en direct de Jérusalem. Et c'est donc dans ce contexte, une semaine après la présentation par Donald Trump de son plan pour la bande de Gaza, que le roi de Jordanie est attendu aujourd'hui à Washington. Une réunion qui s'annonce complexe après que Abdallah II a rejeté le plan du président américain d'annexer l'enclave et de déplacer les Palestiniens. Alors on imagine que le souverain ne manquera pas de lui rappeler combien un tel projet pourrait provoquer le chaos dans la région, sauf que Donald Trump ne cache plus son impatience et menace à présent les dirigeants arabes qui se montreraient sceptiques, Jordanie et Égypte en tête, de leur couper leur versement d'aide américaine sonnante et trébuchante. Les précisions depuis Washington de Sébastien Paour.
Mission quasi impossible pour le président américain. Déplacer quelques 2 millions de Palestiniens hors de Gaza est inacceptable à plus d'un titre par Amman. Le Royaume estime que le projet américain mettrait un terme aux droits nationaux du peuple palestinien et qu'il porterait atteinte à la sécurité, la stabilité, l'identité et la souveraineté de la Jordanie. Le pays parle de menaces sécuritaires et d'une initiative qui exporterait le conflit israélo-palestinien dans le Royaume et pourrait même entraîner un conflit interne. L'ancien ministre jordanien de l'information utilise même l'expression « suicide politique » pour l'Égypte et la Jordanie parce qu'elle serait accusée de connivence pour écraser la cause palestinienne. Trump sait que sa proposition écarterait une éventuelle solution à deux États, mais il sait aussi la pression que les États-Unis peuvent exercer sur le Royaume qui dépend de l'aide internationale. La Jordanie reçoit chaque année environ 750 millions de dollars d'aide économique de l'Amérique et 350 millions de dollars d'aide militaire.
Donald Trump, toujours lui, n'entend pas se contenter d'instaurer un nouvel ordre au Proche-Orient.
Oui, hier, presque 3 ans après le début de la guerre d'agression de la Russie en Ukraine, le président américain a relancé les conjectures autour d'éventuels pourparlers de paix. Plus exactement, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a surtout réclamé que soit compensée l'aide versée à Kiev en obtenant un accès aux terres rares ukrainiennes, comprenant aux métaux, notamment utilisés dans l'électronique, expliquant que son pays devait sécuriser l'argent versé, faute de certitude sur l'issue du conflit, une manière en somme de faire monter les enchères sur l'aide militaire fournie par Washington et d'en conclure, au moins comme ça, on ne se sent pas idiot. Fin de citation. Et que dire encore de la guerre commerciale, cette fois-ci promise toujours par Donald Trump et entrée dans une nouvelle phase hier avec la signature d'un décret imposant à tous les pays des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium, de quoi compliquer un peu plus la donne sur ce marché déjà déstabilisé par la surproduction chinoise, sans compter les difficultés des hauts fourneaux européens. Mais Donald Trump n'en a cure, lui qui ne cesse de trouver des vertus à ses droits de douane, moyen de pression sur les États, moyen de financement des baisses d'impôts, incitateur à la réindustrialisation, bref, un outil marketing et souverainiste de politique intérieure, visiblement efficace d'ailleurs, puisqu'après 3 semaines frénétiques à la Maison-Blanche, le président revanchard est jugé positivement par une majorité d'Américains.
Comment encadrer et stimuler l'intelligence artificielle pour qu'elle serve le progrès et l'intérêt général?
Oui, poser ainsi la question paraît presque absurde, tant on a du mal à dissocier a priori intelligence et progrès. Et pourtant, c'est bien tout l'enjeu du sommet de Paris, dont le bilan reste suspendu à une déclaration commune des États participants. Depuis ce matin, responsables politiques et dirigeants de la tech se succèdent à la tribune sous la verrière du Grand Palais. Emmanuel Macron est le premier à avoir pris la parole, suivi par le duel très attendu, Frédéric Seyss, entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et J.D. Vance, le vice-président américain.
Oui, cravate rouge, veste bleue, le vice-président américain commence son discours par un sourire en direction d'Emmanuel Macron.
Monsieur le Président, je suis venu pour la bonne compagnie et pour le vin gratuit.
Mais très vite, le ton se fait moins amical. Les États-Unis sont leaders de l'intelligence artificielle et comptent bien le rester, prévient J.D. Vance, avant de dénoncer ceux qui veulent réguler l'IA, une forme de censure, dit-il. L'Union européenne, ses règlements et ses amendes sont clairement visés.
Nous invitons vos pays à travailler avec nous et à suivre notre modèle. Cependant, l'administration Trump est troublée par le fait que certains gouvernements étrangers semblent vouloir serrer la vis contre les grandes entreprises technologiques américaines. L'Amérique n'accepte pas et n'acceptera pas cela.
Sur scène, lui succède Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, fait mine de ne pas se sentir visée, mais la réponse est sans appel.
Nous devons avoir notre propre approche européenne de l'intelligence artificielle. Trop souvent, j'ai entendu que nous devrions copier ce que font les autres et courir après eux. Au contraire, nous devons investir dans nos points forts, ici, en Europe.
Et la présidente de la Commission européenne annonce un grand plan d'investissement dans l'IA européenne, 50 milliards d'euros d'argent public qui s'ajouteront à 150 milliards venus des entreprises.
Nous allons mobiliser un total de 200 milliards d'investissements sur l'IA. Ce sera le plus grand partenariat du monde entre le secteur public et le privé pour le développement d'une intelligence artificielle dans laquelle on peut avoir confiance.
Confiance, le maître mot des discours ce matin, qui pourtant représente bien mal les relations entre les États-Unis et l'Europe sur le développement de l'intelligence artificielle.
Alors, quand on parle justement intelligence artificielle aujourd'hui, on a vite tendance à parler technologie et gros sous, sauf que l'industrie de l'IA a aussi s'est sacrifiée, c'est en tous les cas le titre d'un documentaire inédit diffusé ce soir sur France 2, Les Sacrifiés de l'IA, réalisé par notre invité aujourd'hui, Henri Poulain. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors, à travers votre film, vous venez nous rappeler que l'IA donc n'est pas seulement aujourd'hui une histoire d'algorithme, qu'il y a aussi une part de chair, de sueur, et surtout qu'au-delà des ingénieurs et des start-upers de la Silicon Valley, eh bien le développement des intelligences artificielles repose aussi sur des petites mains, des travailleurs, des travailleuses, ceux que vous appelez donc les sacrifiés de l'IA, car c'est un travail souvent subi, précaire, on va y revenir, mais peut-être tout d'abord, comment avez-vous eu l'idée donc de cette enquête ?
En 2018, on avait déjà travaillé sur les travailleurs du CLIC avec Antonio Cassilli et Julien Goetz, mes co-auteurs. Et on a pressenti en 2021-2022 que ces travailleurs déjà invisibilisés étaient de plus en plus nombreux et commençaient à travailler davantage pour les IA, les IA génératives, ChatGPT, Midjourney, pour en citer que quelques-unes. On a pressenti que ce qui était à l'œuvre il y a déjà 7-8 ans s'était considérablement amplifié. Donc on a décidé d'aller y voir d'un peu plus près et on a été déçus du réel. Ouais.
Alors effectivement, hein, parmi les très nombreuses séquences saisissantes de votre documentaire, vous nous emmenez notamment en Finlande, où des textes sont soumis à des prisonnières pour qu'elles guident les IA et les améliorent. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous y avez découvert ?
Alors, c'est étonnant ce qui se passe dans certaines prisons en Finlande, parce que c'est représentatif de cette espèce de dualité qu'il y a entre le côté un peu fascinant de la technologie, c'est une espèce de smart prison, prison intelligente. Il s'agirait comme ça de permettre aux prisonnières de se réadapter par la technologie. Il y a quelque chose d'un peu attrayant, d'un peu marketing dans ce récit. Et en réalité, ce sont des tâches extrêmement basiques, assez élémentaires. On répond par oui ou par non à des textes qu'on ne comprend pas très bien d'ailleurs, puisque ce n'est pas leur formation. Et il y a quelque chose, et bien sûr un travail sous-payé comme est sous-payé en prison le travail du textile par exemple. Donc on sent qu'il y a une sorte de délocalisation du sud vers le nord dans les prisons pour des tâches sous-payées, sous couvert toujours de modernité.
On imagine que dans cette prison, comme d'ailleurs toutes celles où vous nous emmenez, hein, en Bulgarie, au Kenya, il n'a pas été facile d'accéder à toutes ces coulisses.
Non, parce que c'est délibérément occulté. Les grandes big tech n'ont aucune envie qu'on raconte cette histoire. C'est quelque chose d'assez fou quand même, hein. On est en plein cœur de ce sommet de l'IA et il y a un absent considérable. Il y a des millions d'absents. Il y a des centaines de millions d'absents qui sont les travailleuses et les travailleurs. On n'en parle pas, ils n'existent pas. Et on parle, selon la Banque mondiale, de entre 130 et 430, 440 millions de personnes. C'était une estimation en 2023. Et ils sont de plus en plus nombreux. Google estime à près d'un milliard, potentiellement, dans les années à venir, le nombre de data workers, d'annotateurs de la donnée nécessaire pour faire fonctionner ces IA.
Ces millions de data workers, donc, sont-ils en mesure de s'organiser collectivement ?
Alors, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils signent des NDA pour la plupart d'entre eux, qui leur interdit non seulement de s'organiser, évidemment, mais même de communiquer, même de parler, de raconter ce qu'ils font. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les NDA, quand on les signe en Europe, hein, ou en Occident, on est payé pour ça, et plutôt bien. Hein. Là, en l'occurrence, le NDA qu'ils signent, c'est pour être payé $1 de l'heure.
Qu'est-ce que vous avez pu noter sur les effets de leur travail sur leur propre santé ?
Alors, il y a plusieurs catégories de data workers. Mais certains d'entre eux, ils sont quelques milliers, voire davantage, annotent des contenus toxiques. Certains parlent de modération. La modération, c'est pas tout à fait ça. La modération, c'est un travail d'utilité publique quand, sur les réseaux sociaux, des esprits un peu perturbés mettent en ligne des contenus vraiment toxiques pour préserver le public. Les modérateurs sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok vont nettoyer. Mais ce faisant, ils participent aussi à l'identification de ces contenus toxiques. Néanmoins, les travailleuses et travailleurs qu'on a rencontrés au Kenya travaillaient, eux, pour ChatGPT, pour entraîner un produit commercial. Hein, ChatGPT se vend. Il n'y a pas d'utilité de fonction sociale directe pour ChatGPT. Et lorsqu'il les a notés, ces contenus de pédophilie, de pédocriminalité, de torture, des contenus absolument innommables, 10 heures par jour, 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7. Évidemment, au bout de quelques jours, quelques semaines de travail, des syndromes post-traumatiques très très forts sont les brutalisent à l'extrême. Et ce sont des milliers de personnes qui sont effectivement en détresse, mais pas que, leur famille aussi, leur communauté intégralement. Enfin, il y a quelque chose d'une brutalité sans nom.
Et que vous ont répondu les grandes entreprises qui emploient tous ces travailleurs?
Ils n'ont rien répondu parce qu'ils n'ont pas daigné nous répondre. Ils n'ont pas daigné accepter un rendez-vous. On leur a demandé à plusieurs reprises, mais je crois qu'ils ne sont pas pour le fait de parler de ça. Ce n'est pas un sujet pour eux.
C'est bien compris. Merci Henri Poulain. Donc je rappelle le titre de votre documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 2. Les sacrifiés de l'IA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Éric Chavrot et à Loïse Guérin pour la préparation.
Midi et 45 minutes sur France Culture. La suite de votre journal Thomas Cluzel.
20 ans après la loi handicap en France, l'écart entre les ambitions affichées d'une part et puis l'effectivité de la mise en œuvre de ce texte emblématique d'autre part est particulièrement flagrant. C'est ce que pointe ce matin la défense des droits. L'accessibilité notamment est loin d'être effective dans la plupart des domaines. Par ailleurs, les droits des personnes en situation de handicap ne sont pas encore suffisamment respectés. En revanche, sur la question de la scolarisation, là, les progrès sont notables. On compte 4 fois plus d'élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire qu'il y a 20 ans. Mathilde Cariou, bonjour.
Bonjour.
Le nombre des accompagnants d'élèves, les AESH, comme on les appelle à lui aussi, a augmenté de manière significative. Ils sont 140 000 aujourd'hui, sauf que ça n'est toujours pas suffisant donc pour assurer un suivi complet, personnalisé, au point que dans les écoles, Mathilde, bien souvent, les AESH sont contraints de jouer aux chaises musicales.
Oui, je peux vous citer l'exemple de Mine, la fille de Gurvan, qui est atteinte d'une myopathie. Comme 520 000 élèves en situation de handicap, elle est scolarisée à l'école ordinaire en 4e et elle a une notification d'AESH à 100%. C'est-à-dire qu'elle devrait être accompagnée à temps plein, mais dans les faits, c'est loin d'être le cas.
Elle a 3 AESH cette année qui ne peuvent pas se démultiplier, donc il y a quelques cours qui ont été sacrifiés.
Pour elle, c'est la musique, le sport et l'art plastique qui ont sauté. Pour Ewan, en 3e, c'est la moitié des heures de français, car son AESH, Muriel, est elle aussi partagée entre plusieurs élèves.
Il est dyslexique plus, sauf que ses heures de français à lui tombent sur des heures de maths de mon élève de 5e, qui lui a des gros soucis en maths. Donc il a fallu faire des choix.
Des heures qui ne sont ni remplacées ni rattrapées.
Les 2 heures où je suis là, c'est moi qui prends ces cours en note. Puis les 2 heures où je suis pas là, c'est bourré de fautes. Quand c'est des cours de conjugaison ou de grammaire, si la forme est pas bonne, le fond est pas bon non plus.
Résultat, c'est Anne, sa professeure de français, qui tente de compenser le manque d'accompagnement sans perdre trop de temps avec le reste de sa classe.
Des fois, on essaie de mettre à côté de ce gamin-là un autre gamin qui suit bien et qui peut l'aider. Des fois, quand nous, on peut consacrer un peu de temps, on va aussi. Mais dans une classe où tu as 25 ou 30 élèves, tu peux pas être assis à côté du gamin. Tu essaies d'aller faire pour lui la prise de notes s'il y a une prise de notes à faire, mais ça va être des petites choses ponctuelles, quoi.
Le ministère des Solidarités annonce le recrutement de 2000 AESH supplémentaires en 2025. Encore faudrait-il les former et les payer correctement, s'agacent les syndicats d'enseignants qui appellent à la grève des accompagnants pour jeudi prochain.
Merci Mathilde Cariou. Et toujours s'agissant de mobilisation de l'intersyndicale de l'enseignement supérieur manifeste depuis ce midi contre des réductions budgétaires, ce qu'elle dénonce comme la casse du service public. Et puis les personnels des écoles parisiennes sont eux aussi appelés à la grève aujourd'hui contre cette fois-ci la fermeture annoncée de quelques 198 classes à la prochaine rentrée scolaire, une véritable hécatombe. D'autant qu'en 3 ans, Hakim Kasmi, 500 000 de classes a déjà été fermées dans la capitale.
Des fermetures de classes et des suppressions de postes d'enseignants que justifie le rectorat de Paris par la baisse démographique. Ce que déplorent les syndicats d'enseignants qui manifestent également pour dénoncer la fin du régime dérogatoire pour les directeurs d'école qui leur permet d'être déchargés d'enseignement à partir de 5 classes à Paris contre 12 au niveau national. Des mesures purement comptables qui auront aussi des conséquences pour les élèves les plus fragiles, particulièrement ceux scolarisés en réseau d'éducation prioritaire, estime Léa Debois Boisseuil qu'au secrétaire départemental du SNUPP de Paris.
Paris, c'est aussi une des académies quand même qui a énormément d'écoles en éducation prioritaire parce qu'on a à Paris des territoires qui sont socialement très défavorisés et donc des élèves qui peuvent être en difficulté scolaire, en difficulté sociale, des familles qui sont fragilisées par tout un tas de raisons et où l'école est aussi un des piliers des services publics pour accompagner ces familles. Et dans ces écoles-là, voir des classes fermées, voir les effectifs augmenter, voir des collègues parfois chevronnés qui sont là depuis plusieurs années quitter l'école et voir aussi les directions d'école perdre ce temps de décharge qui permettait cet accompagnement très fin au quotidien dans ces écoles-là, c'est des annonces catastrophiques.
Enfin, rappelons que depuis 3 ans dans la capitale, ce sont déjà 500 classes et 400 postes de professeurs des écoles qui ont été supprimés.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Couvert sur l'ensemble du territoire, à l'exception du Piémont pyrénéen et du Pays basque, qui bénéficieront de conditions encore agréables. Quant aux températures, elles seront comprises entre 4 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.